Bonjour, Françoise Trossard et la belle équipe des mariages. Jeanne Carillon, Serge Joncourt, Eva Almassy, Lucas Fournier, Jacques Jouet, Jacques Vallée, Patrice Delbourg, Odile Conseil, Hervé Letellier, Patrice Minet, Jean-Bernard Pouy, Gabriel Godard.
Observez au maximum sur la gauche.
En piste jusqu'à 13h58 pour la deuxième partie de nos mariages en public au studio 105 de la Maison de la Radio. Dimanche dernier, nous nous étions quittés avec le mariage de la fille de Monsieur Charpineau, tandis que nos papous fabulistes planchaient sur des personnages offerts en contrainte par le public du 105. On reprend le fil de notre soirée. Mariage aux papous dans la tête, des mariages à podcaster sur franceculture.fr. Joli dimanche papou à tous. Serge Joncourt, je ne sais pas si vous étiez au mariage Charpineau, mais ce que je sais, c'est que vous revenez d'un mariage. C'était là-bas ou pas ?
Ah non, non.
Non, pas du tout.
Non,
bon.
C'était
alors,
bien.
Vous avez assisté à un mariage, c'était sûrement joyeux, plein de choses à raconter au retour. Et comme vous êtes un monsieur très poli, vous faites ce qu'on appelle une lettre de château que vous adressez aux mariés, hein, pour leur dire vos impressions, en quelque sorte.
Oui, 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 les impressions. Oui.
Hein ? Alors, c'était bien, c'est sympa.
C'est un peu ça, oui, il y a de ça.
Ouais.
Entre autres, il n'y a pas que ça, mais
ouais.
Il y a des impressions. Cher Cindy, cher François, ce petit mot pour vous remercier de ce beau mariage qui était le vôtre. Bien qu'étant allergique au mariage, je dois reconnaître que ce fut malgré tout un grand jour.
Ouais.
Surtout pour vous. Enfin. Pour une fois que vous étiez à l'honneur, pour une fois que tous les regards se portaient sur vous, j'espère que vous en avez bien profité parce que, à mon avis, c'est pas tous les jours qu'une belle assistance baignera dans le franc consensus de vous trouver beau et enviable.
Ah, c'est vrai que c'est un jour où les mariés irradient, quoi. Peut-être pas irradient, dans la vie
irradient,
quotidienne.
Oui, justement, oui. Irradient. On en parlera plus tard. Pour le reste, quelle idée formidable d'avoir loué un pavillon de chasse en pleine forêt pour la réception. Après tout, comme dit l'autre, on ne se marie qu'une fois, hein. Même si ce n'est pas vraiment ce que disent les statistiques, parce que, je vous le rappelle, 58% des couples divorcent après seulement 5 années de vie commune.
Oui.
Sachant que les 42 qui restent se lancent dans l'adultère au bout de 3 ans. Ce qui fait qu'ils divorcent aussi, mais plus lentement.
Oui. Oui.
Tout de même, vous dire 2-3 petites choses sur l'aspect à proprement parler technique de... Parce que c'est technique, moi, qui m'intéresse. Technique de la cérémonie, 2-3 petites remarques qui pourraient éventuellement vous resservir.
La prochaine fois, oui.
Éventuellement. Oui. Alors, bon, pour ce qui est du jeté de riz à la sortie de l'église, on pourrait dire que ça relève de la tradition, de l'inévitable.
Oui.
Seulement, vu que la moitié de l'assistance était intolérante au gluten, on a frôlé le dème de coinc. Et en plus, c'était pas du bio.
Ah.
Alors, ce n'est pas moi qui vous ferai le reproche d'avoir acheté de l'Oncle Ben sans sachet cuisson, seulement votre riz. Avant de le balancer sur la foule, vous auriez tout de même pu le sortir des sachets en plastique. Parce que là, on s'est pris des ballots de 150 grammes lancés depuis le haut du clocher. Du coup, on a relevé 3 protocoles commotion sur le parvis de Sainte-Hélène des Antonins. Et vu que les secours ont été loin à venir et que les véhicules de pompiers ont congestionné le bourg parce qu'ils étaient trop larges, on a raté le début du banquet.
Oui.
Bon, alors, par contre, pour le bon, c'est le détail, hein. Le buffet.
Ah oui, le buffet, c'est important.
Oui, là, par contre, rien à dire, hein.
Ouais.
Il y avait de la place. C'est là qu'on voit que c'était pas une mauvaise idée de prendre un pavillon de chasse, même si je me doute bien que pour vous, c'était moins cher que de louer un vrai bel endroit dans un site accessible.
Ah, vous êtes un peu mesquin,
oui,
quand
non,
même.
Non, non, mais le pavillon de chasse, rien à dire. Sinon que le traiteur doit être chasseur lui-même. Hein. En tout cas, pas franchement végétarien. Ça, quoi. Personnellement, je n'ai rien contre la viande, même si je ne la digère pas. Et que normalement, je n'en ai pas mangé depuis 10 ans. Mais dites-vous bien qu'aujourd'hui, les 3/4 de la population française sont des no-steaks.
Ah, no-steaks.
No-steaks, c'est de l'anglais.
Ah, oui,
c'est
oui. D'accord. Oui.
Du coup, sur les 70 invités, j'étais le seul à me servir de sanglier entier cuit d'un seul tenant à la broche, pendant que tous les autres malheureux se bricolaient des salades en récupérant les feuilles de garniture et les tomates en tranches qui décloraient les plateaux de charcuterie et les terrines de pâté. Les pauvres. J'en ai même vu qui boulottaient leur assiette en carton en les trempant dans la mayonnaise. Alors, quand j'ai demandé au traiteur pourquoi il n'y avait pas de légumes, il m'a dit qu'au départ, il avait bien prévu de la garniture pour accompagner la viande, évidemment. Seulement, sa garniture, on lui avait fauché. Ben oui, c'était le riz. Le riz que les mômes sont employés à balancer depuis le haut du clocher. Pour de le folklore, non mais bon, il n'y avait pas de légumes. Bon. En un sens, on a eu de la chance, parce que imaginez le travail si, comme garniture, le traiteur avait prévu, non pas du riz, mais je sais pas moi, des chouraves ou des potirons.
Ah, oui.
On a eu chaud. On a eu chaud.
Oui.
Alors, cher Cindy, cher François, bon, veuillez tout de même considérer ma petite requête, hein, parce qu'on ne peut pas être que gentil dans la vie. Hein. Non, puisque vous n'avez rien prévu pour le coucher, on a donc été obligé de... Enfin, on était à 50 km de toute zone habitée.
Ah oui, oui, premier dispositif vous êtes parisien, hôtelier. En plus.
Oui, oui.
Vous
aviez et puis fait vu la que route, oui. Notre 306 n'avait plus de radiateur à cause de la canicule, mais enfin, ça, c'est pas
ouais.
Tout autant.
Ouais. Oui.
Enfin, un peu quand même. Donc, avec Aglaé, on a été obligé de dormir dans l'herbe. Seulement, à cause des aoutas et de la chenille processionnaire, ça fait 15 jours qu'on est tous les deux à 2 tubes de pommade aux corticoïdes par jour. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous embêter avec ça. Avec la mutuelle, on devrait s'en sortir. Bon. Non. Par contre, vu que Cindy travaille dans les assurances, je vous joins à la facture du radiateur de la 306 avec mon RIB.
Oui.
Pour le remboursement. Hein, parce que, bon, là, tout de même, sans revenir sur tout le reste, vous êtes bien un peu responsable de la surchauffe du circuit d'eau. De mon radiateur.
C'était très loin de Paris, c'est ça parce que vous
600
km,
Paris... oui, c'est ça.
Ah oui, 700, oui.
600, 600, 600 700, 600, oui. Oui. On s'est perdu, il faut dire. Hein.
Oui, ouais.
C'est peut-être qu'à 300, en fait, hein, mais on s'est perdu. Voilà. Donc vous devriez pouvoir faire jouer votre multirisque dans le cadre des clauses annexes. Enfin, ça, c'est votre boulot.
Ouais, ouais.
Bon, ce qui est sûr, c'est que si vous étiez marié à Athis-Mons ou dans le bois de Vincennes, comme tout le monde, jamais ma 306 n'aurait eu à faire 1500 km en un week-end. Et un jour, elle roulerait encore, ma 306. Hein ? Alors, veuillez agréer tous mes vœux de bonheur, etc., etc., mais je veux ma 306, moi.
Oh, pauvre chat. Vous réfléchirez à deux fois la prochaine fois qu'on vous invite à un mariage.
Deux
c'est
fois,
ça,
au moins deux. Hein ?
Alors, Lucas Fournier, vous seriez François, vous n'êtes pas Cindy, donc...
Non, effectivement, je suis... Bravo.
Donc, alors, qu'est-ce que vous pensez des impressions de Serge ?
Je suis ravi. Juste...
Ah oui ?
Ravi.
Ah bon ?
Ravi, oui. Je
ah
lui
bon
ai écrit séance
tout
tenante,
suite.
Oui, tout
ah
de
oui
suite.
Bon.
Mon cher Serge...
Bravo.
C'est pas facile
pas
à dire.
Facile.
Mon cher Serge, cher ami, j'ai envie de vous dire quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous êtes un type dans le genre de Marcel Proust. Non, je ne dis pas ça à cause de la longueur, sans doute un peu excessive, de votre lettre. Hein. C'est curieux chez les écrivains, cette manie de faire des phrases. Non, c'est que comme Proust, vous avez ce ton quelque peu larmoyant, voire auto-compatissant. Chez Proust, c'est charmant. Hein. Mais vous avez en plus, et cela transpire très bien dans votre beau récit, un côté moine soldat, hein, qui fera toujours son devoir, même si c'est douloureux. Et là, on est forcé d'évoquer Charles Péguy. On a tous en nous quelque chose de Charles Péguy. Mais vous, Serge, un peu plus. Mais ça, vous le savez. Hein. Non, Cindy me souffle Mauriac, mais je préfère Péguy. Et puis, dans cette lettre, transparaît votre formidable appétit de vivre, cette envie irrépressible de vous goinfrer de nourriture terrestre. Les nourritures terrestres. C'est André Gide qui pointe un peu chez vous. Alors, Proust, Péguy, Gide, voire Mauriac. Non, mais décidément, vous êtes un être complexe et superbe, Serge. Non, je reviens maintenant à Marcel Proust, parce que c'est au fond l'unique objet de votre lettre.
Ah bon ?
Oui. Et votre lettre nous a touchés par sa spontanéité maladroite et cette confusion des sentiments où vous vous égarez adorablement. Déjà, nous sommes heureux que vos facultés mentales reviennent peu à peu, après l'épreuve que vous avez traversée et que vous commencez à reconstituer par bribes. Vous savez bien, Serge, que j'avais été très réticent à vous confier cette mission à vous et à votre amie Albertine, que vous rebaptisez Aglaé. Vous aviez donc accepté de participer à notre reality show, Man versus Marcel Proust, où nous laissons nos candidats seuls dans la nature hostile, livrés à eux-mêmes, avec pour seule compagnie, l'intégrale des œuvres de Marcel Proust.
Ah, alors, ça lui a fait du mal, hein,
oui,
j'ai l'impression.
Alors, la production avait déjà réussi le Sahara avec le mouton du Petit Prince, puis seul dans la taïga avec tout Dostoïevski, mais en lançant Mann versus Marcel Proust entre Hillier et Balbec, j'ai conscience qu'on avait mis la marque très haut. Peut-être un peu trop, Serge. Pourtant, vous aviez magnifiquement commencé. Hein. Ce trajet de 600 km en voiture à Saint-Héloïse-des-Antonins, petit clin d'œil à Antonin Proust, qui fut secrétaire d'État aux Beaux-Arts. Ce trajet incommensurable épousait merveilleusement la dialectique de la recherche du temps perdu, surtout avec le crochet inutile du côté de chez Swann, qui vous a fait perdre 8 heures. Et puis cette première nuit du côté de Guermantes, où vous vous êtes couché dans l'herbe avec des aoûtas, mais couché de bonne heure et à l'ombre des jeunes filles en fleurs, c'était très bien. Et même la soirée chez les Verdurins, malgré ce moment d'égarement où vous avez englouti tout le riz au lait, c'était correctement déroulé. Alors c'est clairement quand on a abordé le quatrième livre de la recherche, Sodome et Gomorre, là quelque chose s'est brisé. Alors peut-être la fatigue accumulée après 1400 pages de lecture ininterrompue de l'œuvre, peut-être l'ingestion massive de 22 paquets de madeleines. Nous n'avons pas de certitude, mais comme disait Marcel Proust à Madame Strauss, il n'y a pas de certitude même grammaticale. Bref, ce qui s'est passé entre vous et ce sanglier ne nous regarde pas. Je devine que ce fut charnel. Mais là, on n'était plus dans Marcel Proust, à la rigueur chez Monterland ou Maurice Genevoix. Je ne vois pas pourquoi, d'ailleurs. Aussi, après l'épisode du sanglier, nous avons appelé un prêtre, l'abbé Munier. Dieu merci, vous vous souvenez vaguement de lui. Dieu merci, vous avez survécu à l'épreuve. Voilà, vous vous retrouvez vous-même et le ton se retrouve. Croyez donc, Serge. Marcel, ça aurait été mieux.
Cher Serge,
à l'assurance, parce que je sais que vous avez besoin d'assurance. Croyez à l'assurance de mes sentiments littéraires, les meilleurs. Et c'est signé François. Je mets un petit PS, je relis votre belle lettre encore une fois et je trouve finalement que vous avez un ton très Jean d'Ormesson. Mais ça, vous le saviez. Hein.
Une chanson de Jeanne Carillon, au creux de mon lit sur un air de Brassens.
Au creux de mon lit, il y a des petites miettes, il y a des petites miettes, il y a du bon pain. Au creux de mon lit, au creux de mon lit. Au creux de mon lit, il y a des gâteries. Au creux de mon lit, il y a des rêveries. Il y a des rêveries de petits dés jolis, de petits dés jolis. Autour de mon lit, il y a des petites lumières, il y a des petites lumières, il y a des bouquins. Oh, autour de mon lit, par-dessus mon lit, il y a des dessous pas sur mon lit, des en-dessous qui se déplient, qui se délient. Il y a du beau linge dans mon lit, c'est moi qui vous le dis. Cœur de mon lit, il y a des petites siestes, il y a des petites siestes, l'après-midi. Oh, au cœur de mon lit, chut, je vous ai rien dit. Au cœur de mon lit, il n'y a pas de mari. Au cœur de mon lit, il n'y a pas d'ennui. Pas de conflit, il n'y a que la douce mélodie des corps épanouis. Au son de mon lit, il y a du réconfort, de l'import-export qui trouble mes nuits. Au son de mon lit, vivent les insomnies. Au fond de mon lit, il y a du ressort, il y a du ressort, mais pas de remords. Mais pas de remords, puisqu'au matin je me rendors et j'en veux encore. Au saut de mon lit, il y a des tentatives d'épuisement du lit, il y a des envies de retour pardi, de retourner au lit.
Les mariages aux papous dans la tête, Ça se passe en public au studio 105 de la Maison de la Radio. Et pour les mariages, on envoie des faire-part. Avec Lucas, on est dans le sport.
Amélie Chamaillou, président de l'Union sportive et olympique Castelbajalouzène. Et Fernand Costigno-Jules, président d'honneur du rugby club de la Bastille de Montagnac. En partenariat avec leur partenaire, la cave coopérative des producteurs de flocs de Gascogne, la chambre syndicale du véritable foie gras de Cadar de la vallée de la Baïse et les établissements Vigoulette, Pruneau, père et fils depuis 1940, ont l'immense plaisir de vous faire part de l'union de leurs deux clubs qui évolueront dorénavant sur les stades de France et de Navarre sous l'appellation officielle et unique d'Union sportive, rugbyistique et olympique Castelbajoulou-Labazzido-Montagnacoise, Lusrol Club. Cet heureux événement sera dignement célébré le 25 juin à la buvette du stade Maurice Trélissac à 17h. En présence des témoins, M. André Azaïs, maire adjoint de Castelbajoux, et M. Francis Larnaudy, chargé de la culture, du sport, de la croissance inclusive, de l'exportation et du numérique à la mairie de Labastide de Montagnac. À l'issue de la cérémonie, une cargolade géante réunira l'ensemble des invités et un loto sera organisé au profit de l'Usrocle avec des lots exceptionnels. Premier prix, un cochon. Second prix, toute l'œuvre de Marguerite Duras. Troisième prix, une caisse de Côte de Duras. Tenue de circonstance recommandée et que l'union soit féconde.
Et c'est le moment de retrouver nos deux fabulistes, Jacques Jouet et Hervé Letellier, qui ont travaillé pendant que nous jouions devant eux. Ils avaient des casques pour s'isoler du bruit, donc ça va, ça s'est bien passé,
oui,
Jacques Jouet.
Oui.
Alors on commence par qui? Lequel d'entre vous a envie de se lancer? Jacques?
Oui, je vois.
Rappelez-nous un petit peu les mots qui vous ont été offerts comme personnages pour votre fable.
Eh bien, les mots forment le titre.
Oui.
La fable du grille-pain et du plein emploi.
Voilà.
Ah, c'est pas pareil pour moi.
Oui.
C'est plein emploi et le grille-pain, c'est...
D'accord. On verra votre cas après. Est-ce que vous mettez la morale au début ou à la fin, Jacques?
À la fin.
Oui. Allez, on vous écoute.
Il faut enfin que l'on sache qu'au cours d'une partie de cache-cache, qui se déroulait, comme sur des roulettes, entre un couple d'amis inconnus l'un de l'autre, dans une forêt noire dessinée par le nôtre. J'ai nommé le grille-pain et puis le plein emploi, le premier se cacha sous des aiguilles de pin. Comme il les fit griller en moins de 2 secondes, sous les sapins de bois, les mélèzes qui ploient, éclairant sa cachette au beau milieu du monde, on ne voyait que lui, ma foi. 1-0 pour le plein emploi. Le grille-pain vexé dit « C'est moi qui recolle. On va voir ce que c'est. Je n'ai pas eu de bol. Ma chance va tourner. » Le grille-pain grimpa au haut d'un arbre mort qui n'était équipé d'aucune prise électrique. Bien caché, croyait-il, et confiant en le sort, mais la foudre tomba comme 2 coups de trique, éclairant le cachet comme un phare dans un port. On ne voyait que lui, ma foi, 2-0 pour le plein emploi. Le grille-pain piqué dit « Non, je re-recolle. Je me déguise en Mickey, creuse un trou dans le sol, je te rabats ton caquet. » Le grille-pain, sifflant, se retroussa les manches, creusa les jours ouvrés, recreusa le dimanche, creusa les jours fériés, mais loin qu'il s'enterra, eut tant le rouge au front qu'il l'avait même aux hanches. On ne voyait que lui, ma foi, 3-0 pour le plein emploi. Une fable se doit d'être courte. Et puis il est tard, j'ai faim. Je mangerai volontiers une tourte, sans détailler, en attendant la fin, les étapes du score dont pâtit le grille-pain. À chaque fois, on ne voyait que lui, ma foi. 13-0 pour le plein emploi. Mais il y a une moralité. Si au jeu de cache-cache gagne toujours le plein emploi, c'est tout simplement ma cache, parce qu'il n'existe pas.
Oh, et ça a été écrit devant vous, hein, costaud. Alors, C'est une très belle fable avec une moralité un peu triste, malheureusement.
Oui.
Je ne sais pas si les deux mots vous ont entraîné, Hervé Le Tellier, vers quelque chose de plus joyeux. Non, c'est pas possible.
La moralité est un peu triste. Alors,
oui.
Le plein emploi et le grille-pain. Oui. Depuis qu'il a perdu son travail à l'usine, Lucien passe son temps à se faire des tartines. Il s'ennuie, il grossit, vu que son seul copain est un objet chromé, pour tout dire un grille-pain, qui, cruelle ironie, fut fabriqué en Chine. Souvent, Lucien lui parle et l'autre répond « Bing ». Ça ne fait pas vraiment une conversation. Et Lucien envisage de se faire sauter le caisson. Il remplit la baignoire, s'allonge dans son bain et, voulant en finir, branche le grille-pain. Oh. « Arrête, camarade !» dit une douce voix. « Car il va revenir un jour, le plein emploi. »« Qui parle ?» dit Lucien. « Moi ?» dit le grille-pain. Enfin, vous avez compris. « Jusqu'à présent, vois-tu, je n'ai vraiment rien dit, mais je ne vais pas laisser mourir mon seul ami. Objet inanimé, avez-vous donc une âme ?» s'interroge Lucien. Le grille-pain s'exclame « Mais oui, évidemment !» Et tous les objets pensent. Simplement, on ne parle que dans les cas d'urgence. Bref, ne t'inquiète pas, j'ai des informations. L'emploi va revenir. Adieu la dépression. Le grille-pain poursuit, cite Marx et Proudhon, et en désespoir de cause, il invoque Macron. Bref, Lucien sort de l'eau. Passons sur les détails. Au bout de quelques mois, il trouve du travail. Maintenant, à midi, il mange à la cantine, laissant son grille-pain tout seul à la cuisine. Et le pauvre toaster plonge dans la déprime. Moralité, d'accord ? Le plein emploi, ça peut être sympa. Et quand t'as des copains, tu les vois beaucoup moins.
Bravo, bravo. Très fort. Et Val Massy, avec vous, on revient au mariage parce qu'on n'a pas parlé de la bague qui s'appelle l'Alliance.
Oui.
Et que vous pourriez nous raconter sous forme de poème.
Bah, je fais un rimailleur où j'essaye d'insérer le maximum de sens.
Oui.
Mais j'ai fait un rondeau pour être aussi rond que l'objet.
D'accord.
Et du coup, j'ai que 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilités, 6 strophes.
C'est ça le rondeau.
Oui, et je n'épuise pas à tous les sens.
D'accord, mais c'est pas grave.
Sans tarder, sans me faire prier, le cœur pur, en toute confiance, dans un rondeau, je vais rimer les 100 sens du mot alliance. Une belle bague moyennant finance, à genoux l'homme pour légitimer sa flamme. D'accord, on se fiance, sans tarder, sans me faire prier. Le maire ordonne de nous aimer, promettez devant l'assistance, pire ou meilleur, de vous entraider, le cœur pur en toute confiance. Quand elle est française, l'alliance, on apprend comment s'exprimer, comme Molière avec éloquence, dans un rondeau, je vais rimer. Atlantique, ça va moins charmer, en s'alliant contre la violence, réarmer, désarmer, armer les 100 sens du mot alliance. En religion, c'est l'espérance, en cuisine, savoir marier les saveurs en une expérience, union que je vais consommer, miam, sans tarder.
Vous avez un point de vue, Lucas Fournier, sur l'alliance. Je crois que vous en portez une, d'ailleurs. Montrez votre main. Voilà. Oui, il en a une.
Et c'est une citation de Simone de Beauvoir.
Oui.
Conseil aux jeunes filles rangées. Avant de faire graver un message amoureux à l'intérieur de votre alliance de mariage, veuillez retirer votre doigt, sinon ça fait très mal.
C'était une femme très sage, Simone de Beauvoir. Alors, Patrice Delbourg, ben vous êtes un de ceux qui s'est marié souvent.
Mais qui a divorcé
nous.
Beaucoup.
Oui. Et je sais que, bon, tout comme dit le conseil, vous avez un rapport aux cadeaux de mariage, sauf que vous les avez reçus. Alors, quels sont ceux qu'elle ne voudrait pas recevoir?
Je les ai reçus et ensuite j'ai eu du mal à m'en, à m'en départir.
Et donc vous êtes violemment contre le cadeau de mariage?
Oui, contre le mariage aussi, et contre les cadeaux, oui. Et tout ce qui ressemble à un hymen. Avec Brigitte, nous n'avions pourtant pas déposé de liste de mariage. Nul inventaire dans aucun magasin, dans aucune boutique, rien sur Internet, sur Facebook, rien. À 15 jours de notre union officielle, eh bien, nous avons été submergés par un essaim de présents indigents, un raz-de-marée de gracieuseté stérile. J'ai toujours eu une sainte détestation de ce qui ressemble à une remise de prix, une faveur, une aumône sous bolduc. Un cadeau, ça oblige et on est contraint de rendre. Un cadeau, ça intrigue et on est mis en demeure de s'exclamer, de commenter. Le cadeau, c'est l'escalade de la mascarade. Les Guérin nous ont offert un tire-bouchon hydraulique. Les Brémonts se sont fendus d'un bac géant à glaçons, modèle Titanic. Les Sauniers nous ont gratifié d'un lot de couteaux de cuisine. Charmante attention, pourquoi pas un assortiment de rouleaux de pâtisserie. Chacun y va alors de sa babiole frivole. Ils savent bien pourtant, tous mes amis, que je n'en suis pas à mon coup d'essai. Que j'ai déjà épousé Chantal en 1978, Florence il y a 20 ans, et Sabine il y a 10, sans compter Clotilde. Marion, Christina et Pauline. Tous ces cadeaux, je les ai au moins en double, en triple. La chaussette préservatif, le cendrier karaoké ou la cravate phosphorescente, que j'ai déjà essayé de les revendre vainement au Bon Coin, ou à Price Ministère, qu'ils s'entassent au fond de la penderie, alignés comme des statuettes incas, offrandes superflues, présents balourds, largesses oiseuses. Ah, les cadeaux de circonstance. Je n'aime déjà pas les cadeaux, mais alors, de mariage, c'est presque un pléonasme. L'obol du conjugo n'est qu'un automatisme paresseux dicté par la culpabilité permanente de notre petite culture judéo-chrétienne. Et les Thibauts, tiens, les Thibauts, ils ont toujours fait très fort. Ils m'ont successivement offert du papier de toilette à haute résistance avec des grilles de sudoku. Une grenouille en peluche hilarante, un crayon à papier mouse en forme de crotte, un éventail décoratif avec la tête de la reine d'Angleterre et la fameuse coccinelle qui clignote et ramasse les miettes sur la nappe. Rien de tel que des cadeaux stériles pour provoquer des trous d'air relationnels. Mes vieux amis, ne peuvent-ils donc venir les mains dans les poches? Leur complicité bourrue, un verre de mojito, un bon cohiba cubain me suffirait, ou un paquet d'humour pour la route, plaisanterie salace, drôlerie vacharde, calembour à la volée, ou un petit sourire enjôleur qui m'irait très bien pour affronter cette nouvelle aventure matrimoniale. Mais non, chacun se sent obligé de rivaliser d'ingéniosité pour aligner des offrandes niaiseuses, des faveurs imbéciles, voire me refiler une vieille étrenne de Noël offerte jadis par la grand-tante de Montargis. Les Viroflets, tiens, nous ont généreusement attribué un paillasson couineur. Sans doute pour accentuer les drôle, effets ça. Dévastateurs des rentrées nocturnes. Et les Timoniers qui nous ont offert une laisse de chien. Télescopique, déjà que le mariage est la mort morale de toute indépendance. Avec Brigitte, dont je ne compte pas les fiancés, que naguère elle a officialisé ou non, nous ne sommes plus à l'âge de monter notre trousseau, ou alors de clé, pour avoir chacun une autonomie de serrure le soir. Tout le monde passe délicatement à côté de l'attention qui fait vraiment plaisir. Pas la moindre caisse de brut millésimée. Pas le moindre ticket pour la finale Juventus-Real de Madrid. Pas le moindre week-end à Taormina. Remarquez, j'y ai déjà été 4 fois lors de mes épousailles précédentes. Un mariage, cette cause principale du divorce, ça coûte cher. J'en sais quelque chose. La dernière fois, avec Sabine, on avait déposé une urne en évidence à la mairie pour recueillir quelques liquidités et dons en nature. La cagnotte est restée désespérément vide. Pas un fifrelin, pas une thune. Les gens qui vont à un mariage sont incapables de lâcher un copec. Le pognon, c'est pourtant ce qui se démode le moins. La fraîche, la braise, ça s'échange très bien, non? Il leur faut du papier fantaisie, un ruban, une quincaillerie à l'intérieur. C'est pitié, ça coûte bonbon un jour de noces. On nourrit, on abreuve la terre entière pour un biberon parfumé à la vodka, une paire de pantoufles Pikachu, une casquette avec de faux cheveux. Pourquoi pas des confettis noirs pour jour de deuil, comme le suggérait Alphonse Allais? On a même eu des dragées en polystyrène, de qui se moque-t-on? Je sais qui c'est, ce sont les logiers, ces buses. Ils me revaudront ça. La prochaine fois, quand j'épouserai Estelle, tout bientôt sans doute, je ne le dirai à personne, pas de faire-part, pas d'écriteau, pas de cadeau. En cachette, au fond d'un vieux bistrot.
Il y a tous les points de vue sur le mariage. Hein. C'est ça qui est amusant avec ce thème. Alors, on retrouve nos deux fabulistes, Odile Conseil et Jacques Vallée. Donc, ils ont travaillé aussi, comme Jacques Jouet et comme Hervé Le Tellier, mais sur un autre sujet, puisque leur personnage était la transparence et l'espadrille. À moins que ce ne soit l'espadrille et la transparence, je ne sais pas quel sens vous avez choisi. Odile Conseil, tiens, on va commencer par Odile. Quel est le mot qui a déclenché votre envie de raconter une fable ?
En fait, il y en a deux. C'est la transparence et puis
l'espadrille. D'accord.
Et comme la transparence était le premier mot, j'ai commencé par elle.
D'accord.
J'ai fait des efforts, comme vous voyez.
Ouais. Et la moralité se situe au début ou à la fin ?
Les moralités sont à la fin. Oui. La transparence et l'espadrille. La transparence allait, courait de par le monde, sûre d'elle, criant « Mais comme c'est immonde quand je ne suis pas là ! Partout règne magouille, obscure manœuvre, y a tout qui part en nouille. » Moi, je suis épatante, je n'ai rien à cacher. Si seulement tous ici voulaient bien m'adopter. Et elle courait partout, chez les politiciens, tentant de les convaincre, parlait beaucoup et bien, forçait aussi les portes de tous les grands patrons qui cachent dans des coffres toutes leurs mauvaises actions. Allons, messieurs, montrez-nous donc vos noirs secrets, ces fortunes par vous sauvagement amassées. Et cette femme-là, oui, votre secrétaire, ne serait-elle pas la fille de votre frère ? Ou la petite cousine de votre ex-belle-mère ? Enfin, est-elle vraiment ici à son affaire ? Si cela se savait, ça ferait une affaire qui vous passe de puissant à bien plus bas que terre. « Ha, ha !» disaient-ils tous, « vous me faites bien rire. Mais maintenant, je vous prie de vite partir. Certes, vous êtes une bien tentante utopie, mais ça n'est pas sérieux. Ça ferait du joli si on vous écoutait. Allez-vous du balai. » C'est à ce moment-là qu'apparaît l'espadrille.
« Ah ben, on l'attendait un peu. »
Là, voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait là ?
Ouais.
Un petit tour en ville. En fait, elle pleurait sa sœur noyée dans la durance et par hasard tomba, oui, sur la transparence. Écoutant celle-ci, l'espadrille fut émue. Et oubliant son deuil, s'affirma convaincue. « Oh, chère transparence, je veux suivre tes pas. Je ne cacherai rien, je ferai comme toi. » Et les voici parties, toutes deux en amitié, la transparence en l'air, l'espadrille à cloche-pied. À partir de là, nous avons deux solutions et deux fins possibles. Une fin plutôt pessimiste, une fin plutôt optimiste. Laquelle préférez-vous ? Bon, allez, je commence par la pessimiste. Mais comme les jours passaient, transparence s'agaçait, persuadée que l'autre lui cachait des secrets. Là, tout au fond de toi où l'on met les orteils, il fait noir, il fait sombre, c'est tout à fait pareil que dans le cœur de ceux qui ne veulent pas qu'on sache le tréfonds de leur âme, tout le sale qui s'y cache. Et elle disait ainsi, accablant de reproches, notre pauvre espadrille qui se sentait grise, moche. Ne voulant pas déplaire, elle fit des efforts, usant toile et semelles, en les frottant très fort. Si bien qu'en quelques jours, elle était pleine de trous, certes très transparente, mais bonne à rien du tout, ayant perdu la force même de sautiller sur le moindre chemin, le plus petit sentier. Espadrille tu fus, et te voilà rebut. C'est avec ces mots-là que transparence conclut. Moralité de cette fin-là. Un kilomètre à pied, ça use les souliers. Mais ça, vous tous ici, déjà, vous le saviez. Apprenez à présent qu'excès de transparence use aussi l'espadrille. Il faut bien qu'on y pense. La fin optimiste. Donc je vous rappelle qu'on en était à... Et les voici partis, toutes deux en amitié, la transparence en l'air, l'espadrille à cloche-pied. Elles cheminèrent ainsi, fortes de leur union, entrèrent dans les conseils d'administration. Bon appétit, messieurs, ô gloutons si peu maigres, qui avez oublié ce que c'est qu'être intègre. Je suis la transparence, vous allez m'adopter. Tout de suite, à présent, aujourd'hui, sans délai, ou bien cette espadrille vous bottera le cul. Je sais que ça fait mal, bien plus qu'un uppercut. Les patrons, les puissants et même les députés, craignant pour leur séant, ont tous obtempéré. Voici donc comment la transparence gagna, aidée par l'espadrille à semelle de raffia. Moralité. Un coup de dé jamais n'abolira le hasard. disent les vrais joueurs debout contre le bar. Mais un petit coup de pied a parfois des vertus, spécialement quand ils visent ce qu'on dénomme...
Bien joué, Odile. Alors, c'est à vous, Jacques Vallée. C'est pas facile de passer après. Hein.
Oh non,
j'ai eu beaucoup surtout... plus de temps que Jacques. Hein. Faut le rappeler.
Oui,
quand
c'est
même.
Vrai que Jacques a travaillé sur le mariage de Mademoiselle Charpineau. Alors, ça se présente comment ?
Ben, c'est une espadrille, moi, que j'ai choisie et qui débute la fable.
Oui.
Donc, c'est la transparence et l'espadrille.
Oui.
Une espadrille avait un embarras. Ça arrive à beaucoup, je suppose. De trop de tension, de course, de pas, de marche à qui on l'expose. Lasse d'être ainsi plongée dans le noir, elle se mit en quête d'espoir. Aussi un jour, où le destin lui semblait lourd, elle arriva au bord d'une rivière de la plus belle apparence. Dans le cristal de l'onde plate, elle découvrit la transparence. Si belle, si douce, si délicate, qu'elle voulut changer son monde, elle s'adressa à Jupiter. Toi qui peux tout sur cette terre, si aujourd'hui tu n'as rien à faire, ôte-moi de mon destin lié aux pieds, je ne veux plus les sentir quand ils respirent. Donne-moi cette légèreté, ce beau reflet d'éternité, cette lumière d'une aube première. Vous vous en doutez, elle n'eut pas de réponse de la divinité. Mais l'illusion est un étrange maître. Mieux vaudrait ne jamais la connaître, notre espadrille s'obstine, et croyant son vœu exaucé, elle imagine quelle imprudence pouvoir épouser la transparence. Elle chuta au fond de la rivière, emportant son rêve de lumière. Moralité, alors j'en ai deux, mais elles sont toutes les deux pessimistes. Première, à force de courir après les ombres, on sombre.
Ouais.
La deuxième, nous sommes lourds, restons lourds. Nous sommes pris pour des pieds, soyons des pieds. Soyons nous-mêmes, ne rêvons plus, notre destin est déjà assez ardu.
Ah ouais, merci. Et deux faire part pour la route 2. Le premier par vous, Odile Conseil. Vous nous invitez où, chez qui ?
Je vous invite chez monsieur et madame pas nommés dans le compte, qui sont heureux de vous annoncer les épousailles de leur fille Marie, Aurore Julie Angélique, dite curieuse, avec monsieur Veuf B.B., qui se dérouleront samedi prochain au château d'Isselui. Le futur époux ayant été récemment affecté par une série de deuils, la cérémonie se tiendra dans l'intimité familiale en présence des deux frères de la mariée et de sa sœur Anne. À l'issue de la cérémonie, on festoiera dans la grande salle du château sous la devise de la famille de l'époux « Bon sang ne saurait mentir ». On servira du canard au sang et du sanglier largement arrosé de sangria. Un grand bal sera ensuite donné pour tous les habitants des environs. Tous les corps de bâtiments et les pièces du château, sauf une, seront ouverts pour la fête. Au petit matin, on se rendra en haut du donjon pour admirer le soleil poudroyé et l'herbe verdoyée. Longue et heureuse vie aux mariés. Au verso du carton, il y a un autre texte. Monsieur Barbebleu vous annonce son mariage avec Mademoiselle Marie Aurore Julie Angélique, dite curieuse. Comme les fois précédentes, un grand bal sera donné pour tous les habitants des environs. Tous les corps de bâtiments et les pièces du château, sauf une, seront ouverts pour la fête.
Et le faire part proposé par Jeanne Carillon, pour lequel elle a demandé à Patrice Minet de chanter avec elle. Ils sont tous les deux accompagnés au piano par Gabriel Godard. Alors, c'est sur quel air ? On va reconnaître, peut-être.
Oui.
D'accord. C'est parti.
Vous avez lu le faire-part de Sandy et Polo ?
Comment ils se sont rencontrés ? Comment ils ont décidé de se marier ?
Ça vous a plu, hein ? Vous voudriez bien venir ? Eh bien, venez donc au mariage de Sandy
et Polo.
Alors,
Alors voilà, ça commence par la mairie.
La mariée est belle, son prénom.
C'est Sandy.
Le marié est petit.
Le marié est petit, mais il est mignon.
Leur nom.
Sandy Kilo.
Et Polochon.
Sandy Kilo.
Et Polochon.
Moi, lorsque j'ai connu Polo, il y a 2 ans, j'ai flashé tout de suite sur ses dents de devant.
Moi, c'est plutôt sur ses dents de derrière. Quand elle rigole, je peux les voir tout entière.
110 kilos.
Et Polochon.
Après la mairie, s'il n'y a pas de hic.
Si elle a dit oui, direction le pique-nique.
Pourquoi je dirais non, mon petit Polochon ?
Pour que tu dises oui, ma petite Sandy.
Sandy Kilo.
Et Polochon.
Après le pique-nique, il y a la surboom.
Moi, c'est sur ton déclic que je veux faire boum.
Moi, c'est sur ton cric que je veux faire crack.
J'enlève ta jarretière.
Je déchire ton frac. 110 kilos.
Et Polochon.
On a disparu dans les fourrés.
Loin du pique-nique, loin des invités.
Il pleut des cordes.
C'est un mariage heureux.
Sandy et Polo vont faire des envieux. 110 kilos.
Et Polochon.
Avec vous.
110 kilos.
Mariage au papou dans la tête sur France Culture. Alors oui, on a gardé le plus culturel pour la fin. En fait, quand j'ai proposé l'idée du roman interactif mélange d'exercices de style à Lucas Fournier, Lucas Fournier, il s'est lancé dans l'écriture et il a eu 2 idées. Le mariage de la fille de Monsieur Charpineau d'un côté, puis une autre histoire un peu plus culturelle dans le monde de la peinture. Il m'a envoyé les deux, il m'a dit vas-y, choisis. Et quand on aime, on ne choisit pas. Ce sont 2 histoires qui ne se ressemblent absolument pas, il y a juste un prénom qui revient. Et j'ai aimé les deux, donc j'ai pris les deux. Voilà. Et donc, pour cette histoire, Gilles et Juliana, mariage Rembrandt. Oui. Et même contrainte, Lucas Fournier, vous installez les pions et à la fin, au 5e chapitre, on se marie.
Chapitre 1er, Gilles et Juliana. La première fois que Gilles vit Obtienne, il la trouva franchement laide. C'était au Louvre, où il étudiait la peinture flamande. Il revint le lendemain et cette fois-ci, l'impression fut confirmée. Obtienne n'était pas belle. Air sévère, nez trop grand, robe sombre, dissimulant mal un corps sans harmonie. Quelque chose troubla pourtant le cœur généreux de Gilles. C'était l'expression de tristesse qui émanait de ce visage austère. Ce portrait de 1634 était celui d'une jeune fille, Obtienne, copite, dont le fiancé était loin. Portraituré au Rijksmuseum d'Amsterdam. En rentrant sur son Vélib, Gilles se demanda quel était le prénom de Rembrandt. La première fois que Juliana vit Mertens, elle le trouva franchement laid. C'était au Rijksmuseum où elle étudiait la peinture flamande. Elle revint le lendemain et cette fois-ci l'impression fut pire. Air sévère, nez trop grand, double menton batave, veste sombre peinant à dissimuler un corps grassouillé. Le gardien lui expliqua que ce jeune homme moche, peint par Rembrandt, ce Martin Solman, avait une fiancée à Paris depuis 1634. Et le cœur sensible de la jeune fille Amsteldo Damoise battit d'émotion tandis qu'elle pédalait le long du Zeeburgstraat, tel Job Zoetemelk dans l'Amstel Gold Race. Bon, à ce stade du récit, ouais, le lecteur a compris que les deux histoires de nos héros, Gilles et Juliana, vont se dérouler selon les règles de la symétrie euclidienne. On vous avait dit non, que c'était exigent,
bah
c'est
oui,
Euclide.
Bah c'est vrai. Oui.
C'est Euclide et c'est 1634. Bref, Gilles décida à Paris fou, enlever Oppienne et la ramener jusqu'en Hollande dans les bras de Mertens, son fiancé du Rijksmuseum. Déguisé en Belphégor, il se glisse dans le Louvre. Il découpe l'œuvre, 210 x 135, qu'il glisse dans la housse de son violoncelle, car le violoncelle était son violon d'Ingres. Gare du Nord, Gilles embarque à bord du Thalys en direction d'Amsterdam. Hélas, à l'escale de Bruxelles, le contrôleur annonce en trois langues « Mesdames et messieurs, une fois, ça va être votre chef de bord qui vous parle. Une panne inopinée sur le réseau ferré belge empêche la circulation des trains. » Veuillez donc patienter sur le quai, ça va ? Oui. Et voici donc Gilles avec le portrait d'Oppienne sur le quai, envahi de passagers en déshérence, où se trouve, par homothétie euclidienne, Juliana, voyageuse sur l'Amsterdam-Paris, et qui a de son côté dérobé le portrait de Mertens pour le conduire vers Paris auprès d'Oppienne, qu'elle pense pouvoir trouver au Louvre. Alors profitons de cet arrêt à Bruxelles pour aborder un nouveau chapitre qui sera au choix. Premièrement, Cornélien. Deuxièmement, un roman d'épouvante. Ou troisièmement, un roman de gare.
Ah. Jacques Joye, vous êtes le deuxième romancier et vous vous lancez sur quelle piste de style ?
Sur la piste cornélienne.
On va avoir de l'alexandrin.
Les noces de Rubens, chapitre 2, silence, on fouille. À Bruxelles, midi, comme il est 14 heures... Gilles s'assied par terre et mange un jambon beurre. La bouche pleine, il parle en son fort intérieur, monologue tout seul au milieu de plusieurs. Oppienne, bel objet de mes atermoiements, Oppienne condamnée à te passer d'amant, Oppienne qui bientôt retrouvera Mertens, Oppienne qui finit d'être la puritaine, me pardonneras-tu ce méchant kidnapping ? Ô pauvre fiancée, madone des sleepings. Sache ce qu'est mon but, ne pas te compromettre, puisque mon coup d'éclat finit en coup de maître. À Bruxelles midi, c'est 14h02. Juliana sur le quai, par un sort hasardeux, s'adresse à son Mertens en mangeant la salade, préparée par ses soins céleri rémoulade. Mertens, sacré Graal de mes balbutiements, Mertens qu'il faut aider au plan des sentiments, Mertens, icône aimée que je tiens sous mon bras, Mertens bien emballée avec du sparadrap. Sauras-tu pardonner cet action si noir, si farouche, sournoise et trop mauvaise à boire ? Sache que mon propos n'est que philanthropique. Seconder tes amours étant ma seule optique. Ils sont à quatre pas, l'un de l'autre éloignés, ignorant l'un de l'autre et du tout résignés. Gilles, Juliana, Juliana et Gilles, ceux qu'auraient pu chanter les vers du grand Virgile, et bagages anonymes aussi bien cachés, des polices unies âprement recherchées, Oppienne et Mertens sont comme à touche-touche, sans savoir qu'ils pourraient un baiser de leur bouche. Échanger ! Mais voilà que dans le haut-parleur, on annonce en flamand, en wallon, sans chaleur, qu'il sera procédé contre le prix grand âge au contrôle appliqué des plus petits bagages par la maréchaussée chaussée de Godillot, fonctionnaire officiel puisque territoriaux. Aïe, 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 aïe. En entendant cela, Juliana défaille, tandis qu'également Gilles perd son sang-froid. Tous deux sont accablés du plus terrible effroi. Que va-t-il se passer en gare de Bruxelles ? Gilles, contre son cœur, presse son violoncelle. Juliana, de même, enlace son paquet. Tous deux cherchent des yeux à déserter ce quai. La minute, on le voit, est des plus palpitantes. En quel style poursuivre ? Allons, lequel te tente ? Style marquis de Sade ou saga islandaise ? Style San Antonio ? En avant, à votre aise.
Et à ce stade du récit, nos deux héros ne se sont toujours pas rencontrés. Hein ? Alors Jean-Bernard Puy, quel style vous tend les bras ? Lequel préférez-vous ?
Sant'Antonio.
Ouais, comme c'est étonnant.
Non, parce que le marquis de Sade, ça me fait peur. Et les Islandais aussi.
Allez.
Sant'Antonio.
Oui.
Donc chapitre 3, 1 plus 1 égale 3.
Oui.
Comme la maison Poulaga semblait bloquer toutes les sorties, Julien se dit finement qu'elle était bonne comme la romaine, en plus avec des lardons. Et en mettant partout comme une bignole, elle remarqua un grand couillon qui avait l'air d'avoir des oursins dans le froc. D'ailleurs, un froc qu'on n'avait pas vu depuis Vercingétorix, et qui avait entre les mains un étui à violoncelle qui semblait contenir tout autre chose qu'un crin-crin de la haute, mais plutôt un rouleau, à peu près le même que celui qu'elle avait entre les poignes. Et pareil tout du côté de Gilles. Il avait repéré la greluche avec un rouleau semblable au sien entre ses mains, et surtout avec un balcon où il y avait un monde fou. Une gisquette qui semblait avoir les flumes à zéro et plus un poil de sec. Car les chaussettes à clous s'approchaient d'elle avec un certain sens de l'inexorable. Ils se regardèrent, se reconnurent, devinant chacun ce que l'autre transportait. C'est ça la beauté des romans d'amour. Alors ils se parlèrent, abandonnèrent assez vite les conneries et les banalités, et avouèrent leur forfait. Du coup, ils s'admirèrent, du coup, ils se sourirent, du coup, ça s'agita dans le tréfonds. Mais pas question pour l'instant de se rouler une pelle, de se lécher la poire ou de se sucer la couenne. Il fallait d'abord échapper au Kébourg, au Bourrique, au Perdreau, qui, même belge ou hollandais, n'y entrave que dalle à la peinture batave, à tel point qu'ils ne savent même pas que Rembrandt, eh ben c'est le prénom de Rembrandt. Alors, ils réunirent les deux toiles, ce qui fait que le mec et sa mectone étaient enfin plaqués l'un contre l'autre et les abandonnèrent sur le quai, derrière un édicule. Heureusement que ce n'est pas un texte en vers, sans doute une antique baraque à frites. Gilles et Juliana pensaient à l'avenir. Ils étaient persuadés que Option Copit et Martin Sulmans, enfin collés ensemble, allaient fissa faire la bête à deux dos, et que ça ne nous prépare pas, la flamande à gros nez allait avoir vite fait un polichinelle dans le tiroir, ou, pour faire moderne, un prototype en soufflerie.
Oh, c'est bien ça.
Ouais,
là, c'est élégant.
Sans tuyaux, hein,
bah oui.
Et comme eux-mêmes ne pouvaient pas encore arriver, si l'on peut dire, à cette extrémité, ils décidèrent, pour sceller leur fiévreuse rencontre, d'aller chouraver une autre œuvre du général Barbouilleur, un enfant, cette fois-ci. Et puisqu'il n'était pas très loin de Rotterdam, ils décidèrent d'aller au Muséum Boitsmans pour s'emparer, en loose dé, du joli portrait de Titus, l'enfant de Rembrandt, ce peintre dont le prénom est Rembrandt, rentrez-vous ça dans la calebasse. Ça se corse, comme disait la reine-mère. Vont-ils enfin convoler les deux tourtereaux ? Un suspense aussi poignant, qui tord les tripes de tous les Pékins qui nous écoutent, se doit d'être torché dans un style qui en impose. Alors, soit le style congé payé, soit le style voyage gastronomique, soit le style hypochondriaque.
Bravo pour Cantonio. On progresse, Serge, ils se sont rencontrés, ils se sont parlé, ils ne s'aiment pas encore, ou peut-être ne le savent-ils pas. Alors vous poursuivez en optant pour quel style ?
Voyage gastronomique, au hasard.
Oui, au hasard.
Alors le chapitre 4, donc, relever la sauce hollandaise.
Ouais.
Alors, pour savoir si les perdreaux de l'année convoleront, prenez vos deux tourtereaux, là où vous les aviez réservés. Ben. Faites-les revenir sur le quai avant que les bœufs carottes ne se mettent à la cuisiner à propos de ces tableaux roulés façon NEM, les deux Rollmops qu'ils ont planqués derrière la baraque à frites de la gare de Duxelles. Alors, Duxelles, qu'est-ce qu'une Duxelles ?
Oui, s'il vous plaît, oui.
Une Duxelles, je vous le rappelle, est une tombée de champignons de Paris découpée fin est revenu au bord avec échalotes hachées que vous aurez préalablement salées, poivrées et réservées sur le bord du piano. Alors, le piano a laissé tomber, certes. Si bien que pour poursuivre votre recette, Laissez vos deux tourtereaux mariner dans la duxelle, hein, pendant que les poulets leur tournent autour, façon rôtissoire. Hein. D'un coup sec, déglacez toutes ces volailles pour relancer la trie. Hein. Si bien que Gilles et Juliana se mirent à filer à l'anglaise, à la sauce anglaise, voyez, vers la sortie C, où les attendait un quart Macron, histoire de filer de duxelles à Rotterdam, sans se faire griller.
Ah oui, au plus vite. Oui.
Alors, le vrai secret de la recette... du quart Macron. L'astuce, c'est la garniture. Comment réussir un bon quart Macron? Pour cela, vous prenez 58 pigeons bien sanglés. Vous les enfournez par paire dans une étuve à 42 degrés. Faites-les dégorger d'un centime d'euro tous les kilomètres. Roulez-les bien dans la farine. Et vous laissez suer le tout pendant 7 heures, tout en les mouillant régulièrement d'un bon jus de canette à 5 euros. Ce qui fait que nos deux tourtereaux auront donc rissolé 7 heures au fond du bibus, thermostat 8. 7 heures à cuire à basse température, à tel point que quand ils débarquèrent à 2 heures du matin sur une gare routière de Rotterdam, ils étaient cuits et recuits, autant le dire, comme les dindons de la farce. Et c'est là, au beau milieu du quatrième chapitre, quand bon maître queue, vous vous dites « Bon sang, voilà 20 pages que je cuisine mes deux personnages, 20 pages que je les dessale, que je les rissole à l'hollandaise, ce serait peut-être le moment de pimenter un peu la sauce en les convolant. »
Eh oui.
Hein? Alors, pour faire coucher vos deux tourtereaux, placez-les sur un lit de garniture que vous aurez préalablement remisé, incorporez le rable du gaillard aux deux cuisseaux de la tourterelle, dressé sur canapé, à la rigueur, ajoutez un bouquet garni d'adjectifs bien croustillants, voire crus, si possible. Et une fois que les abatis ont bien caramélisé, faites-les braiser. Braiser. Pendant 20 bonnes minutes, dans les coursives du Boijmans Museum. Faites-les braiser vraiment, et pour relever un peu la sauce, n'hésitez pas à enrober la préparation d'une belle couche de confiture ou de culture, ce que vous avez. Assaisonnez le tout avec un peu de piquant façon batave indonésien et disposez le tout devant le tableau de Titus au milieu des hors-d'œuvre, enfin au milieu des chefs-d'œuvre, pardon. Titus, fils de Rembrandt, dont vous n'ignorez pas qu'il fut lui-même cuisiné par son père à un peu toutes les sauces. Et c'est là, en voyant se rhabiller nos deux perdreaux, que Titus se sauva lui-même de son tableau, se jeta par la fenêtre de peur d'être cuisiné une nouvelle fois. Sur ce, se pointent dans la pièce les poulets de Duxelles, qui eux aussi avaient pris le 8 bus, mais le suivant.
Ah oui.
Dès lors, comment Gilles et Juliana vont-ils se sortir de ce pétrin? Vous le saurez dans le prochain chapitre, travailler en style journaliste sportif.
Ah oui.
Ouais. Style Pagnol, mais presque. Et style Tchekhov, par exemple.
Bon. Vous nous avez donné faim, Serge. Donc, c'est à vous qu'arrive ce roman, Hervé Le Tellier, pour le cinquième chapitre. Et je vous rappelle qu'il doit se terminer par un mariage. On en est encore très loin.
Oui.
Très, très loin. Vous choisissez quel style?
Tchekhov.
Tchekhov. Ah, oh, on va se
c'est
régaler.
Cette pièce de Tchekhov s'appelle Le mariage. Le mariage d'Anton Tchekhov. Le rôle de Juliana sera interprété par Madame Jeanne Carillon. Le rôle de Stan Gouria, commissaire, sera interprété par M. Jacques Jouet. J'interpréterai moi-même le rôle de Gilles et les didascalies seront lues par Mme Eva Almassi.
Acte 1. La cellule d'un commissariat. Ellipse. On comprend que Juliana et Gilles ont été arrêtés. De la fenêtre de la cellule, on voit un canal de Rotterdam. Il neige, car vous l'ignoriez, mais c'est l'hiver. Juliana est assise sur un banc et attend. Gilles fait les 100 pas. Le commissaire entre.
Je suis le commissaire Stan Gouria.
Il manipule des documents. Ce sont des passeports.
Donc, vous êtes accusé de vol d'œuvres d'art et vous êtes bien Juliana Ivanovna Yesayev.
Bonjour, moi. J'ignorais que vous aviez des origines russes, Juliana Ivanovna.
Comment l'auriez-vous pu, Gilles? Dans les chapitres précédents, personne ne nous a donné de nom. Oui, Je suis russe. Da, Yaruskaya. Tout comme mes trois sœurs.
Quant à vous, Gilles Fibrilovitch Trigorine...
Что? Gilles Fibrilovitch? Vous êtes russe?
Oui, Juliana Ivanovna. Ma mère est arrivée en France voici 15 ans, avec mon oncle Vania. Et nous sommes allés...
Bon, Gilles Fibrilovitch Trigorine, vous êtes accusé d'exhibitionnisme sur la voie publique.
Comment?
Ah non, je me suis trompé de dossier. L'inspecteur Malevitch m'a encore donné une feuille blanche sur fond blanc. Voilà, Gilles Fibrilovitch Trigorine, vous êtes accusé de vol d'œuvres d'art et de violence sur agent de la force publique.
Comment de violence? Mais je n'ai frappé personne.
Mais si, c'est écrit là. Ah! Personne ne reconnaît jamais rien. Personne n'est jamais coupable. Et vous ne voudrez pas signer, bien sûr. Je déteste ce métier. Vous croyez que je le fais par plaisir? Vous croyez que moi, Stan Gouria, commissaire divisionnaire de Beveraert à Rotterdam, je m'amuse alors que je suis né Stanislas Jargojevitch Gouria? Oui, je suis russe, moi aussi. Mes parents avaient une grande cerisée près de Saint-Pétersbourg. Mais nous avons dû la céder pour 80 000 roubles à un moujik enrichi. Le nouveau propriétaire a abattu tous les arbres. Tchac! 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 Il a construit des villas en masse, des lotissements.
Des lotissements? Mais quelle horreur!
Le commissaire fond en larmes. Rideau. Acte 2. Le bureau du commissaire Stanislas Jargojevitch Gouria. On a sorti la bouteille et les verres de vodka. Juliana dort. Tout le monde a trop bu.
Alors, comme ça, Gilles Fibrilovitch, vous et Juliana Ivanovna, vous avez dérobé des tableaux de Brabant, de Brabant. Enfin, vous avez volé des tableaux.
Pas volé. J'ai simplement pris le portrait d'Oppienne et Juliana le portrait de Martène.
Ce n'est pas bien. Ah non. Dites-moi, cela vaut cher un portrait de Rembrandt, là?
Ce n'est pas l'important.
Pas l'important? Pas l'important, mon ami. Pendant 30 ans de métier, je n'ai pas réussi à économiser un copec. Je voulais vivre à la campagne, dans une datcha, et me voici à arrêter des délinquants.
Juliana ouvre un œil.
Nous n'avons pas volé les tableaux, commissaire Gouria. Nous les avons réunis. C'est parce qu'ils s'aiment.
On ne peut pas se passer d'amour, Stanislav Jargojevitch.
Bah l'hiver, non. Regardez-moi, je m'en passe très bien.
Le commissaire fond en larmes. Rideau. Acte 3. L'aube se lève sur Rotterdam. Il neige toujours. On entend des cris des mouettes.
Ah! 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 Oh, une mouette! J'aime les mouettes!
Elle se sert un verre.
Je suis une mouette! Ah! 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 Mon cœur est plein de vous.
Oh, Juliana! Je vous aime, je serai votre Martène. Vous êtes mon Oppienne, vous êtes mon héroïne.
Assez d'effusion. Je vais vous faire une proposition, Gilles Fibrilovitch. Et à vous aussi, Juliana Ivanovna. Donnez-moi ces tableaux. Je connais un receleur qui me les reprendra à un bon prix. Aujourd'hui, tout le monde a le droit de vivre sa vie. Même les portraits de Drandran. Et vous, je vous libère. Vous êtes libre comme l'air. Et je vais vous marier.
Nous marier?
Se marier?
Ah, vous êtes beau comme la jeunesse. La vie est devant vous. Vous êtes des artistes. Moi, commissaire Gouria, par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Embrassez-vous.
Gilles et Juliana s'embrassent.
Partez, partez vite. Quant à moi, avec l'argent de ces tableaux, je vais racheter la cerisée.
Gilles et Juliana sortent. Le commissaire fond en larmes. Rideau.
Quels acteurs! Et on se quitte sur la marche nuptiale, interprétée par Gabriel Godard, version jazz. Thank you.
Mariage au papou dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Reste à découvrir le DLA et pour ça, rendez-vous en septembre. La fête au mariage, une émission proposée par Françoise Tressart avec la bande des papous du jour. Équipe technique et de réalisation, Anne de Pelchin, Bernard Lagnel, Régis Nicolas, Célia Dufour. Attachée de production, Marie Dalquier. Les photos de la soirée à retrouver à la page des Papous du jour sur franceculture.fr, tout comme le podcast, et sur notre page Facebook où nous vous invitons à laisser vos messages. C'était le dernier numéro des Papous de la saison. On se quitte sans vraiment se quitter puisque vous pourrez écouter tous les dimanches de 19h à 20h notre horaire d'été des bons vieux numéros en public des Papous de l'année. Au revoir, prenez soin de vous et passez un bel été en compagnie des programmes de France Culture. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова